RMC, le week-end des experts, 6h-8h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan.
Il est 7h09, c'est RMC, le week-end des experts, le jardin, merci d'être avec nous. Deuxième partie, donc, vous le savez, de ce rendez-vous dédié à la nature et au jardin, aux plantes. Sachez que juste après, entre 8 et 10, on retrouvera la maison avec Christian PC qui sera là. 2 heures dédiées au bricolage à la maison, la déco. Puis on évoquera tout à l'heure un spécial décoration entre 9 et 10. Nous allons parler aujourd'hui de déco, de coaching déco, de home staging. À l'occasion de l'ouverture hier de la nouvelle session de maisons et objets. Jusqu'à mardi, c'est à Villepinte. Alors bien sûr, on y reviendra. C'est un salon qui est dédié aux professionnels, mais qui malgré tout, nous, passionnés de maisons, nous intéresse. Patrick Mulan.
Monsieur François Sorel.
Alors pour cette deuxième partie dédiée au jardin, on va s'intéresser à un aspect économique intéressant, c'est le business des plantes.
Voilà, c'est un sujet qu'on n'a jamais traité, si on l'a un peu évoqué de temps en temps. Et pourquoi est-ce qu'on le traite aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que le 22 octobre dernier est sorti un livre qui s'appelle « Le grand business des plantes » chez Plume de Carotte, « Richesse et deux mesures ». Il a été écrit par Florence Tinard. Florence Tinard, elle est avec nous. Bonjour Florence, bienvenue.
Bonjour, merci.
J'avoue que j'ai été absolument bluffé par ce bouquin.
Oui.
Parce que bon, c'est vrai que c'est, comme vous le disiez François, un aspect tout à fait différent de ce que nous traitons habituellement dans l'émission, mais où la plante est présente en permanence et montre un impact sur notre vie quotidienne, je dirais, énorme. Alors, on se nourrit, mais on s'habille, enfin, il y a beaucoup de choses. Florence, la plante, elle est partout et elle est dans le business.
Ah oui, ça, elle est dans le business et dans nos vies quotidiennes. Alors, on estime qu'elle représente 80% de notre nourriture, déjà. Ensuite, il y a tout ce qui est...
Au niveau mondial.
Au niveau mondial. Il y a tout ce qui nous habille, le coton, le lin. Il y a tout ce qui sert à construire nos maisons, à faire rouler nos voitures. Le caoutchouc des pneus, le carburant qu'on y met. Et les médicaments, les parfums, les cosmétiques. C'est immense, la place des plantes. Et c'est étonnant parce que c'est assez invisible. On est complètement blasé ou complètement aveugle souvent à cette omniprésence des plantes dans nos vies.
Oui, alors les jardiniers, on est un tout petit peu plus présents par rapport au végétal parce qu'on essaye de s'entourer effectivement de végétal. Mais là, effectivement, on va parler un peu des plantes qui nous entourent, mais surtout qui génèrent en fait des marchés, une économie absolument invraisemblable parce que vous parlez alors de tous les grands mots qu'on entend dans les rubriques habituellement économiques, les marchés à terme, les subventions, la sécurisation des approvisionnements, le transport, les quotas, les national, même du commerce illégal. Enfin, c'est incroyable le monde des plantes.
C'est incroyable le monde économique des plantes. Et c'était très intéressant d'aborder les plantes par ce côté-là, parce que moi je suis plutôt une jardinière aussi. Et c'était fascinant de voir justement à quel point elles étaient actrices de la mondialisation ou victimes de la mondialisation, parce que elles ne commercent pas d'elles-mêmes. Mais
c'est pas les plantes qui sont victimes de la commercialisation, c'est les consommateurs.
Les consommateurs aussi, oui. parce qu'ils consomment des plantes qui sont le produit d'une agro-industrie qui a un petit peu perdu les pédales quand même et qui nous fournit des nourritures qui sont pas forcément bonnes pour nous.
Oui, alors ça c'est un autre sujet. on va pas débattre là-dessus parce que c'est vrai qu'on pourrait s'étendre sur cette méthode-là. Bon, mais vous expliquez quand même bien qu'à un moment donné, il faut quand même nourrir l'ensemble de la population et que bon, il y a des méthodes traditionnelles et il y a des technologies qui s'ouvrent. On finira peut-être le sujet de l'émission avec ça, mais on va parler un peu d'abord de la mondialisation parce qu'en fait, la plante que l'on consomme ou qui est à côté de nous en permanence, souvent, elle a beaucoup voyagé.
Elle a énormément voyagé. Le moindre sachet de thé, le moindre jus d'orange, le blé a fait 12 000 kilomètres au minimum. Entre le Brésil, notre jus d'orange du matin, par exemple, c'est le moment, c'est le petit déjeuner, il a fait 12 000 kilomètres la plupart du temps, sauf s'il vient d'Espagne. En général, c'est des oranges fraîches qui arrivent d'Espagne. tous les jus qui soient concentrés.
Même les jus d'orange frais, en fait.
Ou frais, voilà, ouais, tout à fait, parce qu'en fait, ils voyagent congelés.
On va pas citer de marque, mais ils viennent.
Voilà, ils voyagent congelés.
Ah, ils sont tous congelés.
Oui, c'est, les frais sont congelés sous forme de briques énormes, comme des espèces de gros cubes de glace
d'orange.
De jus d'orange. Oui, voilà. Et les autres sont concentrés et on manipule. Moi, j'ai regardé les photos, c'est assez impressionnant de voir sa nourriture manipulée comme du pétrole, parce que c'est pompé dans des espèces d'énormes tuyaux de caoutchouc noir, ça rentre dans les bateaux, ensuite ça passe dans des camions citernes.
C'est moins séduisant.
Et quand ça arrive dans notre verre, on n'imagine pas qu'il y a tout ça derrière.
Oui, parce qu'on vous met un marketing qui vous fait croire que ça a été cueilli à la main par un producteur.
Mamie, voilà.
mais en même temps, il faut être logique, c'est-à-dire que nous sommes quelques milliards sur cette planète et c'est des milliers de tonnes de produits qui marchent en permanence, et donc on pourrait pas non plus le faire vraiment à la main comme au Moyen-Âge.
Oui, alors au Moyen-Âge, on mangeait pas d'orange déjà, on s'en passait.
Il y avait des gens qui en mangeaient, mais chacun
nous,
dans son pays.
Pas chez nous, voilà, c'est ça. Et oui, mais ça, c'est la grande magie du marketing, c'est de nous faire croire qu'on est seul au monde et qu'on est seul à consommer. Mais justement, moi, c'est pour ça que j'écris ce genre de bouquin qui peut paraître un peu aride quand même comme sujet. C'est parce que
c'est pas aride du tout. Alors ça, je veux le dire à tout le monde, c'est pas aride du tout. En plus, c'est super illustré. Il y a plein d'encadrés, etc. C'est des petits textes qui sont faciles à lire et qui sont très édifiants. Je peux vous le garantir.
Eh ben merci. Mais juste, voilà, c'est ça. Parce que sinon, cette information-là, on l'a pas.
Ah non.
Et donc, voilà, j'ai essayé de rassembler tout ce qu'on pouvait trouver sur la façon dont on produit et commerce les plantes à travers la planète, en tout cas celles qui nous sont proches.
Ça génère un business, mais c'est pas inintéressant. Par exemple, le fait d'avoir, mettons, des producteurs d'oranges au Brésil qui nous fabriquent du jus, on fait travailler ces Brésiliens et nous après on consomme des produits. Enfin, c'est ça l'économie, en fait. Est-ce qu'il faut se recentrer sur soi-même et uniquement cultiver ces pommes, ces poires, et puis se dire bon sang, je mangerais bien un peu d'orange quand même.
Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème à avoir envie de manger des oranges. Mais il faut juste savoir dans quelles conditions c'est fait et quel impact ça a. Pour produire un verre de jus d'orange au Brésil, il faut 12 verres d'eau. De l'eau du Brésil.
Pour cultiver les orangers, tout simplement.
Et puis, non, pour la faire évaporer, pour faire du concentré de jus d'orange, fait ça dans des grands bains-maries géants. Et ça consomme 12 verres d'eau pour faire un verre de jus d'orange reconstitué, si vous voulez, ensuite.
Oui.
Voilà. Donc,
On le déstructure et après on le refabrique.
Oui, on la sèche en quelque sorte.
Voilà, on la sèche et on se retrouve avec une espèce de pâte orange fluorescente qui transite donc par camion, par bateau, par recamion, qui arrive dans des usines à jus de fruits en Europe.
On rajoute de l'eau.
Et on rajoute la même quantité d'eau qu'on a enlevée, on se retrouve avec un bon jus d'orange.
Enfin, si on fait ça, c'est parce c'est parce qu'il y a des raisons économiques. Parce que si c'était plus facile et plus rentable de presser l'orange qui vient juste de l'Espagne à côté et de la mettre sur le marché, on le ferait sans doute.
Mais c'est parce que nous sommes pas prêts à... Non, alors attendez. C'est parce que nous, consommateurs,
on
n'a pas envie de presser nos oranges le matin. Parce que sinon, les oranges d'Espagne vous goûteront beaucoup moins cher.
Oui, mais je veux dire, les Espagnols ou les Français pourraient acheter... Enfin, des industriels pourraient acheter des oranges d'Espagne, les presser à côté de chez nous et nous les vendre directement.
Oui. Et elles sont... Alors c'est ça, vous avez raison. Elles sont beaucoup... C'est beaucoup moins rentable. Pourquoi ? Parce que les ouvriers brésiliens qui travaillent sur les plantations, et ça c'est le deuxième aspect quand même qui est très intéressant, c'est que notre nourriture, elle est pour l'essentiel produite par des gens qui meurent de faim. C'est aussi simple que ça. Il y a des...
Qui sont exploités.
Qui sont
ceux qui nous nourrissent meurent de faim.
Exactement.
C'est quand même énorme.
Il y a des famines avérées dans le Darjeeling, où on produit un des plus grands thés du monde.
En Inde.
Oui, en Inde, et dont les thés sont vendus à 300 euros le kilo chez Mariage Frères. Les cueilleuses de thé, elles sont payées quelques centimes d'euros par journée, où elles cueillent des feuilles hyper coupantes, comme des feuilles de camélia, si vous voulez.
Oui.
C'est un camélia, d'ailleurs, le thé.
On aurait pu imaginer qu'elles allaient avoir un salaire décent pour ce travail. Ce n'est même pas le cas.
Non,
c'est-à-dire
c'est absolument pas le cas. C'est pas le cas pour les cueilleurs de bananes, c'est pas le cas pour les cueilleurs d'oranges, c'est pas le cas pour les...
Pourtant, on voit parfait
sur les paquets de thé, des informations en disant voilà, on respecte effectivement les cultures,
le commerce équitable,
etc.
Florence, elle en parle.
C'est quoi, c'est du pipeau, ça?
Non, pas du tout. Ça, c'est extrêmement efficace quand c'est appliqué. Par exemple, ça permet que nous, quand on achète un kilo de banane 10 centimes de plus que son prix normal, que son prix en supermarché sans qu'il soit équitable, on double le revenu de la personne qui les accueille. On lui double son revenu, c'est-à-dire qu'on lui paye, on lui permet d'être payé 31 centimes au lieu de 15 par jour.
D'accord. Et là, ça devient presque indécent, ou est-ce qu'on est encore...
Mais ça ne représente que 1% du commerce mondial.
C'est ça. D'accord. Ouais.
Alors, achetons équitable et on changera le monde. C'est ça qui est aussi génial dans cet intérêt qu'on peut avoir pour les plantes qui nous nourrissent. Ouais. C'est que on devient acteur du monde. Mmh. 3 fois par jour, on mange, minimum. Et 3 fois par jour, on peut agir sur le monde. Pour une fois qu'on a un moyen, nous, citoyens, d'être extrêmement acteurs et efficaces sur la marche du monde, on pourra en profiter.
Conclusion de cette première partie, achetez vos oranges et pressez-les.
C'est ça.
Non, mais c'est vrai. Alors c'est vrai que c'est un peu fastidieux.
En plus, c'est meilleur. C'est meilleur.
Et puis, comme disait madame, en termes de vitamines, etc., de bienfaits pour la santé, ça n'a rien à voir que cette pâte-là d'orange auquel on rajoute de l'eau.
Il rajoute des vitamines.
En plus.
Bah oui,
il n'y a pas que de l'eau.
Parce qu'elles se sont perdues en chemin. Quand on la chauffe, la vitamine C, c'est très sensible à la chaleur.
Ah oui.
Et dans une bouteille ouverte, il s'en perd 2% de vitamine C par 24 heures.
D'accord. Allez, on revient dans un instant. 7h20, on parle du business des plantes ce matin dans ce Week-end des Experts. A tout de suite.
Rejoignez les experts jardins sur leur page Facebook, Votre Jardin sur RMC. RMC, le Week-end des Experts. Votre Jardin, François Sorel, Patrick Mulan.
Il est 7h22, c'est RMC, le week-end des experts, le jardin avec Patrick Mulan et notre invité avec Florence Tinard, qui est auteur du livre Le Grand Business des Plants. Patrick, on va maintenant, après avoir parlé des fruits de l'eau des oranges, s'intéresser au blé.
Oui. Le blé qui est une céréale, bien sûr,
le moteur de
grosse consommation, surtout dans les pays européens, puisqu'en fait, bon, en Asie, on mange quand même plutôt du riz encore, mais bien que, il y a des choses très intéressantes dans le livre de Florence Tinard, et notamment, la chose suivante, moi, qui m'a interpellé. Il s'échange chaque année de manière virtuelle sur les marchés boursiers au moins 200 fois la production mondiale réelle de blé. Et donc, les conséquences du maelstrom des transactions virtuelles sont énormes sur le monde réel. Ça veut dire quoi, ça, Florence? Ça veut dire qu'en fait, il y a un marché, pas parallèle, mais un marché virtuel d'une des plantes essentielles pour notre nourriture.
On va vous allumer le micro si on y arrive. Voilà, on vous écoute.
C'est pas la seule qui soit concernée par ces transactions financières, c'est le cas pour le maïs, c'est le cas pour le caoutchouc, c'est le cas pour les fleurs, à peu près la totalité de notre nourriture est soumise au marché financier et d'une manière qui est devenue absolument incontrôlable depuis la dérégulation financière des années 80. Ça, c'est la suite du réganisme en fait, et les marchés boursiers ont donc été libéralisés, et ça a correspondu au moment aussi de l'éclatement de la bulle immobilière, et donc les investisseurs se sont tournés vers les bourses en cherchant des investissements rentables. Or il se trouve qu'on est dans un monde où il y a de plus en plus de bouches à nourrir, que le nombre de terres est stable, voire en dégradation, et que donc on est dans un marché en tension. Il y a beaucoup de gens à nourrir, il y a des quantités fixes de nourriture. Le prix monte, voilà.
Oui, c'est ainsi que vous expliquez qu'entre février 2005 et février 2008, le prix du blé avait augmenté de 181% au niveau mondial. Donc ça a carrément affamé des gens.
Ah oui, et on est là pas de l'ordre justement de la simple spéculation qui est une demande forte et une proposition, une offre stable. On est dans un jeu de recherche de rentabilité financière maximale avec des investisseurs qui envoient
des millions de transactions.
C'est de l'ordre de 300 milliards par an de transactions.
Rien que sur le blé.
Sur le blé, oui. Mmh. Et là, on ne parle que des marchés financiers légaux, parce qu'il existe en parallèle de ça. Donc, il y a une bourse principale qui est la bourse de Chicago, où déjà s'échange 46 fois le volume de la production mondiale par an. Et il y a des, ce qu'on appelle les dark pools, c'est-à-dire les bassins sombres, des marchés financiers dérégulés, mais légaux, et sur lesquels s'échangent 3000 milliards par an de dollars de matières agricoles. Donc c'est de la pure spéculation financière et ça touche notre assiette et ça touche la nourriture du monde entier.
Oui,
et
voilà,
en 2008,
surtout...
il y a eu ces fameuses émeutes de la faim. Les gens n'arrivaient plus à se nourrir, comme vous l'avez dit.
Oui, parce qu'en fait, on atteint des prix qui sont en plus totalement artificiels. Mais en même temps, il y a une réalité, puisqu'en fait, vous dites dans votre livre que la consommation mondiale de blé a été multipliée par 2,6 au cours des 40 dernières années et que des pays, comme, enfin des pays, des continents comme l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud, qui ne consommaient pas de blé dans les années 60, donc on n'est quand même pas si loin que ça, absorbent aujourd'hui 80% de la production mondiale. Donc il y a un basculement de la consommation, du type de consommation dans le monde.
Oui, tout à fait. Et ça, c'est pas parce que tout d'un coup ils se sont dit que c'était mieux de manger du pain que du riz, parce qu'en fait la base de la céréale, la base de la nourriture, c'était soit le riz, soit le mil,
oui,
par
le
exemple,
sorgho,
ou le sorgho, des céréales locales. C'est que il y a eu un mouvement des pays africains pour produire plutôt des monocultures d'exportation, qui a fait qu'il n'y a plus assez de nourriture produite localement, et donc ils sont importés du blé, et
maintenant, fait, globalement, on cherche plus à faire de l'argent qu'à nourrir le monde.
Ah oui, ça c'est bien clair, parce que si on voulait vraiment nourrir le monde, il n'y aurait aucun problème de nourriture sur
la planète. Il n'y aurait aucun problème. Parce que c'est une question aussi d'organisation, tout ça.
C'est une question de choix politique. Parce que je pense que les technologies, on les a. On sait maintenant restaurer des sols. On sait faire pousser des plantes dans de l'eau saumâtre. On sait tout. Mmh. Sauf qu'on le met pas en œuvre.
Mmh. Et vous parliez du maïs. Oui, François.
Alors, moi, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on fasse une petite pause. Il est bientôt 7h30 et on revient pour
on verra dans
poursuivre
les fleurs,
cette discussion
alors,
passionnée.
C'est ouais. Peut-être plus doux, j'en sais rien d'ailleurs, hein, parce que Florence...
On parlait tout à l'heure de ces pauvres oranges qui font parfois des milliers de kilomètres avant d'arriver dans notre verre. C'est le cas aussi pour certaines fleurs et non des moindres.
Ben, vous allez voir les roses notamment, qui presque toutes viennent du Kenya.
Incroyable.
Et bon,
incroyable.
Je pense que c'est un tout petit peu moins méchant que ce que l'on vient de dire.
On verra. Ah oui, parce que là, on peut pas les congeler, les roses. Hein. Allez, la météo, les infos. Et on revient sur RMC pour ce week-end des experts jardin.
Le week-end des experts sur RMC, votre jardin.
Patrick Mulan. Il est temps de retrouver une petite question flash, et c'est la question de Sylvie de Pau. Quels sont les plus anciens rosiers que l'on cultive encore aujourd'hui, Patrick? J'aimerais créer un massif historique dans mon jardin.
Bah, si vous voulez un vrai rosier authentique, il suffit de planter un églantier déjà. Hein. Rosa canina, le rosier des chiens, c'est quand même la plante sauvage spontanée qui est à l'origine de pas mal de roses. Et puis d'ailleurs, on continue à l'utiliser comme porte-greffe. Alors après, les plus anciens hybrides sont certainement les rosiers blancs, donc qu'on appelle les rosiers alba, qui ont été cultivés dès l'Antiquité, en fait, ces rosiers-là. Et on en a fait donc des croisements aussi en Europe à partir du XVIe siècle, sans doute avec des roses locales, donc des églantiers, et des roses de Damas qui avaient été apportées par les croisés. Donc on a obtenu des hybrides. Il y en a qui sont très très connus, hein, par exemple cuisse de nymphe, c'est peut-être un des plus anciens. On est autour de 1630 avec donc ce très très bel arbuste qui donne une grosse fleur couleur chair, hein, d'ailleurs on l'appelait Rosa alba incarnata, hein, comme si c'était une plante qui avait donc la couleur carnée. Et presque un siècle et demi plus tard, on a créé cuisse de nymphe émue. Donc elle est légèrement plus rosée, comme si en fait elle avait pris une sorte de petite rougeur des pommettes.
D'accord.
Oui, c'est vraiment une très 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 mignonne petite rose. Et puis derrière cela, bon, on voit les rosiers galliques, hein, les rosiers de Provins, qui créent énormément de variétés. Donc ça, plutôt, on était au 19e siècle. Donc si vous mettez un petit peu tout ça, bon, des rosiers de Damas, on en trouve aussi quelques-uns, vous commencerez à avoir une petite roseraie sympathique dans votre jardin. Puis j'aime bien aussi Bel Amour et puis Célestial, vous voyez, des noms sympathiques comme ça.
Ouais, qui font rêver. Et 32-16 hein, pour toutes vos questions, jardin, on vous attend.
RMC, c'est au 32-16.
45 centimes la minute.
Et au 7-32-16.
65 centimes par envoi, plus près du SMS.
RMC, le week-end des experts. Votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan.
Il est 7h35, c'est RMC, le week-end des experts. Merci d'être avec nous, votre matinée sur RMC. À partir de 8h, on changera d'univers, ce sera la maison. Christian PC me rejoindra dans ce studio et jusqu'à 10h, il répondra à toutes vos questions maison. Et puis à partir de 10h, ce seront les GG du sport, bien entendu. Bon week-end à toutes et à tous, si vous venez de nous rejoindre, et bienvenue. Patrick, pour cette dernière partie dédiée au jardin, on s'intéresse au business des plantes.
Oui, toujours au business des plantes, mais là on va revenir un tout petit peu plus vers les fleurs et puis découvrir que la première bulle spéculative de l'histoire est due à une plante que tout le monde connaît qui s'appelle la tulipe. Alors Florence, oui.
Ça remonte à quelques temps.
Ah ben oui, il y a quelques temps, mais la tulipomania c'est 1634-1637. Mais pendant cette période, il y a eu des choses invraisemblables. Alors déjà, pour positionner un peu le décor, on avait créé quelques années plus tôt la première bourse de commerce à Amsterdam.
Voilà, donc ça c'est une création des Hollandais qui sont toujours à la pointe en matière d'horticulture et de commerce, et qui le restent aujourd'hui d'ailleurs. Et donc ils commerçaient à l'époque du bois, de la laine, des produits qui venaient d'Europe du Nord et qui transitaient vers le Sud, etc. Et puis ils ont envoyé en Turquie un ambassadeur qui s'appelle Gislan Busbeck. Ce Gislan Busbeck a des rapports tendus avec le sultan turc, mais néanmoins, comme il est enfermé à résidence, il explore son jardin, il observe les animaux et il repère les fameuses tulipes. Et c'est pas difficile parce que la tulipe est omniprésente dans la société turque à l'époque. Elle est célébrée partout, sur les vêtements, sur les fresques des maisons, etc. Et elles ont des pétales très très effilés. On en fait même des formes de vases, etc. Il transporte, enfin il envoie par la valise diplomatique de l'époque des bulbes de tulipes qu'il a acheté au janissaire qui garde sa porte, et il les envoie à un botaniste de ses amis qui s'appelle Charles de Lécluse et qui est hollandais, lequel les plante dans son jardin et pour les protéger, ces fleurs magnifiques, les plante dans un coin très secret avec des grands murs, etc.
Et là on est au milieu du 16e siècle, voilà. Il faut le dire, hein, puisqu'en fait la première floraison c'est 1559, voilà. Donc c'était le fameux Carolus clusus, on disait à l'époque. Hein, on disait des noms latins pour les savants, c'était bien.
Ça posait son homme. Et Charles de Lécluse se fait voler ses bulbes de tulipes. Et à partir de là, ça devient une folie en fait. D'abord la bourgeoisie hollandaise, puis l'Europe tout entière est prise d'une tulipomania frénétique. Et les bulbes s'échangent à prix d'or. Et il y a donc une spéculation sur les bulbes, parce que en achetant un bulbe, on ne savait pas ce qu'il allait produire, évidemment, puisqu'on n'a qu'un oignon, tout le monde le sait. Et certaines d'entre elles étaient atteintes d'un petit virus qui les rendait panachées, donc ça décuplait leur prix. Et donc, du coup, s'échanger, c'est la première, ce qu'on appelle les marchés à terme, c'est-à-dire que je vous achète maintenant des oignons et je vous les paye dans quelques mois. Et d'ici là, j'ai le temps de les revendre et les revendre, voilà. Et les revendre de plus en plus cher. Et donc.
Personne ne les aura vus et peut-être qu'on n'en aura pas.
Peut-être que ça ne donnera rien, mais des oignons de tulipe à la grande époque de la tulipomania, c'est changer le prix d'une très belle maison sur les cadeaux d'Amsterdam.
C'est incroyable. Et aujourd'hui, ça vaut 30 centimes d'euros. Un bulbe de tulipe comme ça. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est capable. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas l'habitude des marchés financiers, mais quand vous expliquez ça, Florence, on voit qu'on est capable aujourd'hui de commercer de manière totalement virtuelle. Bon, on le faisait donc déjà à cette époque-là, en achetant une marchandise que l'on n'a jamais vue et en la revendant avec un bénéfice évident à quelqu'un qui ne l'a pas vue non plus et qui va peut-être lui aussi la revendre à quelqu'un. Et qui est le dindon de la farce au final?
Je pense que c'est les producteurs et les consommateurs.
Les deux extrêmes.
Aux deux extrémités de la chaîne qui, eux, n'interviennent pas sur ces marchés financiers. Mais quand on dit ça se vend et ça se revend, c'est pas des humains qui font ça. Maintenant, c'est des algorithmes informatiques qui font ça avec à la microseconde.
Mais à l'époque, c'était quand même des personnes.
Voilà, à l'époque,
et malgré tout, ça restait déjà du virtuel.
Oui. C'est totalement virtuel. Aujourd'hui, on pense qu'il y a que 10% des transactions qui donnent effectivement lieu à une livraison de marchandises.
10% des transactions qui sont réelles, en
voilà.
Fait.
Voilà.
Incroyable.
Et le reste,
je vous livre mon blé. Voilà, mon blé.
Et le reste, entre-temps, on a fait beaucoup d'argent avec rien.
Voilà.
C'est quand même, enfin, moi, alors là, ça me choque énormément. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quand on travaille, par exemple, c'est-à-dire qu'on a l'impression, donc, qu'on fournit quelque chose et qu'en contrepartie, on a un salaire ou on a un revenu, ça semble logique. C'est-à-dire que, par exemple, je produis, je gagne quelque chose, etc. Alors que là, on fait strictement rien, on va dire, qui ne profite à rien. Et pour le, ouais, entre guillemets, le malheur des deux extrêmes. C'est quand même un peu terrible, ça.
C'est pas moral, hein. Mais non. c'est pour ça que les institutions financières essayent de réguler cette finance folle. Mais elle touche tous les aspects de notre vie. Elle touche l'immobilier, elle touche la santé. La financiarisation de notre monde est extrême.
Alors là, on a parlé de cette tulipe, mais on va parler d'une autre fleur qui est emblématique, qui est la rose. Donc, vous dites que la plupart des roses que l'on a chez le fleuriste, elles ont parcouru au moins 7000 km avant d'arriver chez nous. Pourquoi? Parce qu'elles viennent soit du Kenya, soit de Colombie, quoi, globalement.
La Colombie alimente plutôt le marché nord-américain, en fait. Nous, on a beaucoup de roses du Kenya. Pour l'essentiel,
non, mais quand vous achetez des très grosses roses, la rose de compétition, d'accord, en général, elle est colombienne. Quand vous achetez le bouquet de roses, de petites roses, etc., en général, elle est kenyenne. Alors que nous étions en France des producteurs extraordinaires de roses de fleurs coupées.
Mais aujourd'hui, je vais chez un fleuriste, je ne peux pas acheter de roses faites ici en France ou en Europe.
Au mois de janvier, alors si elle est européenne, ça veut dire qu'elle a poussé en serre, chauffée 24 heures sur 24 en Hollande. Donc c'est la seule solution.
Oui, c'est presque pire.
On en a encore un petit peu en Bretagne,
le dégât écologique.
Il y a tout un débat, effectivement, entre les experts pour savoir si le poids carbone
si l'avion
est pire pour une rose qui vient du Kenya que pour une rose qui vient des serres hollandaises.
Alors, ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire que c'est insensé d'acheter des roses aujourd'hui quand on est en France?
Mais tous les jardiniers savent qu'il n'y a pas de roses dans les jardins.
Non, mais moi je dirais, attendez, je suis pas d'accord avec ça. Moi je vais faire mon Éric Brunet. Il y a des moments où je me dis quand même que on participe aussi à l'économie. Moi, ça ne me gêne pas d'acheter un bouquet de fleurs du Kenya parce que je sais qu'au bout de la chaîne, il y a aussi des gens qui sont au Kenya, un pays que j'adore, pour d'autres raisons, et qui ont, grâce à moi, entre guillemets, un peu améliorer leurs conditions de vie. Quand j'achète melon
j'imagine
de la Guadeloupe, c'est la même chose.
Non.
Après, bon, il y a des chiffres extraordinaires dans le livre de Florence. Le Kenya exporte vers l'Europe 1 million de roses par jour. C'est ahurissant. C'est-à-dire qu'on en produit, alors vous dites, on produit 125 000 tonnes de fleurs par an, dont 60% de roses qui représentent 500 millions
de
dollars.
Patrick, comment fait-on pour les conserver? Parce que malgré tout, il y a un transport là.
Même ça si prend l'avion?
En avion, etc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elles sont cueillies, elles arrivent quand chez le fleuriste?
Elles arrivent le lendemain.
Le lendemain?
Elles sont envoyées.
Elles vont à Amsterdam.
Elles sont cueillies, mettons, vers 10 heures du matin. Les ouvrières ont 20 minutes pour les effeuiller, enlever les épines et les mettre en chambre froide.
Ah, donc elles sont pas congelées comme le jus d'orange, mais
non,
pas
non.
loin.
Mais elles
non,
sont
non,
rafraîchies.
C'est hors gel.
Elles sont rafraîchies.
Au frigo. Comme
oui,
si vous laissiez dans le bac à légumes,
en fait.
C'est ça, exactement.
Mais en plus, elles sont cueillies à un stade de végétation extrêmement particulier, où le bouton commence simplement à être coloré de manière à ce que la plante puisse continuer son évolution.
D'accord.
Et enfin, tout ça, c'est très 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 contrôlé. La fleur coupée, c'est hyper technique. Et les variétés de roses qui sont cultivées sont très particulières. C'est pas les mêmes que les roses de nos jardins. Et elles sont sélectionnées par rapport justement à la
robustesse
de la fleur, au fait qu'elles soient capables de faire des tiges droites et les plus longues possibles, parce que plus elles sont longues, plus ça coûte cher, etc.
Mais donc là, elles sont cueillies à 10 heures.
Oui.
Alors, et le lendemain à 10 heures, vous pouvez les offrir à votre maman.
C'est incroyable.
Parce qu'elles transitent, donc elles prennent l'avion à Nairobi le soir à 17 heures. Elles arrivent à 3 heures du matin à Amsterdam. Là, elles sont mises à disposition dans des
espaces. Oui, c'est un peu le rangis de la fleur.
Le Wall Street,
d'accord.
on va parler de ça, du marché au cadran. Il faut quand même expliquer, Florence, comment ça se passe en Hollande, donc qui est là, on va dire, le hub mondial du commerce de la fleur et de la plante en pot. Et là, vous avez des marchés qui sont des marchés au cadran. Alors, comment ça se passe? Moi, je les ai déjà vus, mais je veux que Florence nous l'explique.
Mais c'est une enchère, mais une enchère à l'envers. C'est-à-dire que les lots de fleurs fleurs sont affichées à un prix le plus élevé
et qui baisse petit
d'accord. à petit. Donc tout l'art des enchérisseurs, c'est d'arriver au moment où le prix sera le plus bas sans se faire faucher le lot.
Voilà. Il faut appuyer. Ils ont des boutons et ils commandent là. Donc il faut appuyer avant que son concurrent est appuyé de manière à avoir quand même de la marchandise et en essayant de l'acheter le moins cher possible.
Et à partir du moment où j'appuie sur le bouton, après c'est redistribué et envoyé dans, par exemple en France.
Là ce sont des grossistes effectivement, d'accord. après qui envoient à des chaînes de distribution ou à des fleuristes, etc. Bien sûr. Et tout ça passe toujours dans la chaîne du froid, hein, parce que ce sont des camions frigorifiques d'accord. qui transportent.
C'est à partir de chez le fleuriste en fait qu'elles reviennent à une température normale, c'est ça ?
Oui,
c'est ça.
Bien sûr. Encore, quand vous rentrez dans une boutique de fleuriste, vous allez remarquer, il fait toujours plus frais.
Il est 8h moins le quart. Voilà, après ce parcours incroyable et insensé de la rose, on va poursuivre. On parle ce matin du business des plantes sur RMC dans ce Week-end des experts. À tout de suite.
Le Week-end des experts sur RMC, votre jardin. RMC, le Week-end des experts, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan.
h 47, c'est RMC, le week-end des experts de jardin. Ce matin, on parle du business des plantes, Patrick, avec notre invité Florence Sinner, qui est auteur d'un livre passionnant, Le grand business des plantes, richesse et démesure, par aux éditions Plume de Carotte.
Voilà, il est passionnant, il est très bien illustré aussi, donc c'est vraiment accessible à tous les publics, et je vous conseille vraiment de l'acquérir ou de faire plaisir à quelqu'un, parce que ça peut être un joli cadeau, c'est un très beau livre. On parlait de la Hollande, et il y a un chiffre qui m'a aussi interpellé dans le livre de Florence. Donc sur ce que vous appelez le Wall Street de la fleur, donc à Amstel en Hollande, 48 millions de fleurs et de plantes vertes changent de main chaque jour. Donc on est vraiment sur des masses aussi de consommation qui sont considérables. Et il y a une organisation commerciale autour de cela.
Ah oui, bien sûr, il y a des serres, il y a des ouvriers.
Non, mais c'est pas le petit fleuriste qui se pointe là-bas, c'est quand même déjà des grosses structures et de plus en plus grosses.
Oui, mais les fleuristes sont quand même les récipiendaires de ce grand vaste réseau.
Oui, mais ils sont en bout de chaîne.
Voilà, en bout de chaîne, tout à fait. Oui, c'est l'échelle agro-industrielle, c'est ça l'agro-industrie.
Voilà, on se rend compte en fait globalement que tout grossit, puisqu'en fait vous dites aussi qu'au Kenya, 50 plantations qui couvrent entre 20 et 50 hectares chacune fournissent 70% des exportations de fleurs, tandis que 4500 fermes de moins d'un hectare représentent seulement 10% des ventes. Donc il y a les pauvres de la fleur et les riches de la fleur.
Oui. Alors en fait, c'est une évolution assez récente qui date des années 2000 et un peu plus, qui est l'arrivée de la grande distribution dans ce marché de la fleur. Et alors là, il y a des conglomérats de jardineries, supermarchés, bricomarchés et autres qui se sont engouffrés et qui ont pris le contrôle du marché. Et donc, ils imposent leurs exigences, puisque c'est eux les acheteurs principaux.
Ils achètent en direct, ils passent pas par la Hollande.
Voilà. Donc, ils court-circuitent les cadrans et donc, ils vont directement
au producteur. Ils imposent leur prix.
Ils imposent aussi qu'il y ait une immense variété, et un renouvellement régulier des variétés. Ils imposent des emballages particuliers. Ils imposent des rythmes, très difficiles à tenir, puisqu'il y a des énormes pics de vente au moment de Noël, au moment de la fête des mères. Voilà, Saint-Valentin. Voilà, ça, c'est les grands moments. Et donc les petits producteurs ont mis la clé sous la porte. Ils sont partis travailler comme salariés dans les grandes productions. Il y a une concentration en fait de la production.
Mais malgré tout ça, vous dites quand même que l'horticulture européenne reste la première du monde et que en Europe on produit 44% de la production de fleurs et de plantes ornementales mondiales. Donc on reste quand même parfois avec des entreprises qui sont pas forcément d'ailleurs énormes en Europe et on est encore bien placé. Donc il y a de l'avenir.
Mais c'est aussi parce qu'on est les plus grands amateurs de fleurs. Les Européens, les Allemands, les Français, les Anglais achètent énormément de fleurs. Je crois qu'à nous trois, on achète 60% des fleurs du marché. Et on a aussi
beaucoup plus que les Chinois, beaucoup plus que les Japonais ou les Américains.
Pour l'instant, oui, je pense me souvenir de ce chiffre. Oui, on est les plus gros consommateurs et on a aussi le climat qui nous permet justement de produire tout ce qui est oignons, tout ce qui est arbustes d'ornement, tout ce qui est arbre de Noël. Voilà, on a des. C'est sûr qu'on est en pointe là sur ce marché-là.
Alors on va continuer avec. Une production qu'on peut imaginer aussi un peu plus de proximité, qui est le légume quand même, hein, le potager. On a tous plus ou moins son petit carré de légumes, ouais, nous les jardiniers.
Peur, là, parce qu'après tout ce qu'on a entendu depuis alors, tout à l'heure.
Est-ce que ça se passe comme ça? Parce qu'en fait, vous dites dans votre livre, et c'est vrai que ça a l'air d'être plus rassurant par rapport à ce qu'on vient de dire depuis le début de l'émission, que plus de la moitié de la nourriture mondiale provient de petits potagers, avec 500 millions d'exploitations familiales. C'est colossal.
C'est colossal, mais c'est ça qui nourrit, en fait, la plupart des familles et des, dans les pays en voie de développement.
Surtout en Asie.
C'est-à-dire Asie, Afrique, Amérique du Sud. Et heureusement que les gens ont un petit lopin de terre, et c'est ça qui fait la base de leur nourriture. Ils font du manioc, ils font du maïs, ils font quelques légumes, ils font des légumes verts, ils font des plantes aromatiques, des tomates, des courgettes, etc.
Donc c'est fait d'abord pour sa consommation familiale.
Oui, tout à fait.
Et après, le surplus, on le vend au marché.
Si on a accès à un marché, ou alors on se met sur le bord d'une route et puis on vend ce qu'on a.
Mais est-ce que vous pensez raisonnablement que c'est une économie intéressante? C'est archaïque?
Je ne crois pas que ce soit archaïque de se nourrir soi-même. Je pense même qu'on devrait y revenir, non pas avec des techniques archaïques, mais avec les techniques modernes qu'on a mis au point. Ce que je disais tout à l'heure, on sait tout faire. On sait tout faire. Et si on mettait notre intelligence, notre savoir et notre inventivité au service de notre propre nourriture, et si on récupérait, nous, une part d'indépendance et
alimentaire... Oui, on deviendrait tous agriculteurs. Et donc, les hautes technologies, cher à mon ami François, ou tout ça, elles seraient abandonner.
Non, quand je dis relocaliser, ça veut dire par exemple pour produire une plus grande partie de notre nourriture en France. Et vous savez, comme moi, dans quel état est l'agriculture et les agriculteurs français. Je pense qu'ils ne seraient pas mécontents de produire plus, mieux et de nous nourrir. Je pense même que c'est leur mission et leur...
Ils en sont conscients. Hein. Moi,
ils en sont conscients.
Vous savez, je pense quand même qu'on a tendance à dresser des tableaux assez noirs, alors que, bon, je pense qu'on a rarement atteint un degré de qualité sanitaire des aliments. D'ailleurs, ça se voit sur la santé des gens, ça se voit sur la longévité de la population qui s'est améliorée de façon considérable. Bien sûr, il y a l'hygiène, il y a tout ça. Mais globalement, on a très très peu de réelles intoxications alimentaires. Alors on fait les choux blancs de certains médias quand il y a un peu de salmonelle quelque part, etc. Mais c'est souvent plus dans la méthode de transport, de conservation, que dans la production. Moi, je rencontre énormément de professionnels, que ce soit dans l'horticulture ornementale ou dans le potager, etc. Ce sont des gens extrêmement respectables, soucieux vraiment d'améliorer tout. Enfin bon, je pense pas qu'il y ait vraiment qu'une volonté de produire et de faire une espèce d'énorme business avec une marge. D'ailleurs, la marge aujourd'hui, on voit bien que ce sont plus de les réseaux d'intermédiaires qui les prennent que ceux qui produisent.
C'est sûr. Mais là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est que si, d'un point de vue sanitaire, en tout cas dans ce qu'on mesure, les fruits et les légumes, par exemple, pour ne prendre que, qu'on consomme, sont effectivement impeccables, en revanche, d'un point de vue métaux lourds, au point de vue résidus de pesticides, ils le sont pas. Et on sait maintenant que, justement, l'espérance de vie qu'on avait gagnée à force d'hygiène, à force de bonne nourriture, enfin, en tout cas d'alimentation en abondance, est en train de diminuer à cause des cancers, à cause des maladies neurodégénératives dont on a vraiment maintenant de fortes présomptions pour se dire que c'est parce qu'on a une alimentation qui emprunte d'engrais chimiques, de synthèse.
L'engrais chimique n'est surtout pas toxique pour les gens. L'engrais chimique n'a aucun impact sur la santé humaine.
J'aurais dû dire pesticides, herbicides,
fongicides. L'engrais est simplement les éléments minéraux dont la plante a besoin et qu'on lui donne un peu, je dirais entre guillemets, comme sous perfusion. Aujourd'hui, on revient plus à une sorte de fertilisation plus naturelle en attendant que les micro-organismes transforment les éléments dans ces matières chimiques qui sont pompées par la plante, parce que de toute façon, la plante ne peut pas faire autrement que elle ne peut pas pomper de la matière organique. Elle ne peut pomper que des éléments qui ont été transformés en sels minéraux. Donc là, la fertilisation, elle était basée là-dessus.
J'aurais pas dû dire engrais. J'aurais dû dire pesticides, fongicides, herbicides.
Oui, mais par
là,
exemple, bon,
vous
ça, bon,
pas c'est, me faire c'est un croire autre... que c'est bon bénéfique pour nous.
Non, mais c'est beaucoup moins dangereux que l'on peut imaginer pour plein de raisons. On en a parlé souvent ici. On en reparlera. C'est d'abord que les pesticides que l'on avait au sortir de la guerre et jusque dans les années c'est vrai, proche, on va dire 80, 90 même, étaient pour beaucoup des matières parfois extrêmement toxiques, mais notre regard, depuis plus de 20 ans maintenant, a complètement changé là-dessus. Les matières toxiques ont été éliminées des marchés.
Il en reste plus du tout?
Alors, la législation est hyper drastique, mais vous avez raison de soulever que certaines substances que l'on utilisait jadis, par exemple, si on prend le lindane, qui était un insecticide qui était très utilisé pour éliminer les vers du sol, la rémanence, elle est de 25 ans. Ah oui. Donc il est bien encore, évident qu'on en retrouve encore un peu. Et puis peut-être qu'il y a des gens qui en avaient stocké après l'interdiction qu'on utilisait. Bon, mais de toute façon, ça, c'est en train de varier complètement.
D'accord.
Mais on reparlera d'autres choses bientôt, c'est-à-dire que globalement, on attend quoi? On attend la prochaine épidémie. Ça, je peux
vous dire. Florence, le mot
de la fin. Juste pour dire que ça, à la limite, je veux bien l'entendre. Et encore, on en est encore à réduire de 50% les apports de, justement, de pesticides et d'herbicides. Mais ailleurs, alors là, on y va, on s'en donne à cœur joie. Et comme l'essentiel de notre nourriture vient d'ailleurs, de toute façon, on importe aussi.
Alors ça, je partage totalement. Là-dessus, vous avez raison. C'est-à-dire que nous, on se tire des balles dans le pied, mais on laisse les autres effectivement nous envoyer tout ce qu'ils ont envie. Ça, c'est un autre problème.
Mais parce qu'on le leur demande aussi, on le leur achète.
Oui, voilà, c'est moins cher, vous avez raison.
Merci beaucoup, Florence.
Merci à
vous. En fait, c'est que l'argent qui fonctionne dans ce... C'est horrible.
L'argent régit tout, on le sait bien. Le grand business des plantes, donc, richesse et démesure aux éditions Plume de Carotte. Merci. Patrick, on se retrouve bien sûr samedi prochain.
Voilà.
On sera là, vous le savez, 2 heures dédiées au jardin. Chaque samedi, entre 6 et 8 heures. On va revenir dans un instant après la météo et les infos. Et ce sera Christian Pessé qui sera...
Je suis là.
Voilà, qui lui n'a pas été élevé aux pesticides.
Non,
regardez-moi
non.
Ça. Quel beau voilà, spécimen.
Mon fumier de cheval.
Voilà.
Ah. Allez, la bise aux jardinières, ma petite jardinière. Je vous dis à la semaine prochaine. On parlera de climat et de plantes, justement.
Parfait. Et la météo des infos, et ce sera la maison. À tout de suite sur RMC.
Le week-end des experts sur RMC, votre maison.